France Inter.
Ce soir, au lendemain du premier tour des élections, nous avons décidé d'inviter deux intellectuels. Véronique Naoum-Grapp, anthropologue, spécialiste des crimes de guerre, a publié un article récemment dans la revue Esprit intitulé « L'hiver gagne ». Et puis Michael Fossel, que nous connaissons bien dans cette émission et qui a publié récemment « Quartier rouge » aux éditions Presse universitaire de France. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Ray Ventura, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu, y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'on attend pour faire la fête?
Y a des noisettes dans ce macreux.
Y a des raisins, des rouges, des blancs,
des bleus.
Les papillons s'en vont par deux. Et le mille-pattes met ses chaussettes.
Les alouettes sont des aveux.
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Les parapluies restent chez eux.
Les
cannes s'en vont au calme
à usette. Levez la tête,
les amoureux.
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
Première question, elle s'adresse à tous les deux. Qu'est-ce qu'on attend effectivement pour être heureux, Véronique?
Je dirais que pour le moment, qu'est-ce qu'on attend pour être encore plus malheureux peut-être? On peut pas être heureux dans des univers où les sphères, les bulles sont totalement hermétiques l'une à l'autre. Exemple, la bulle dans laquelle on est quand on parle des élections en France, où elle est complète, c'est un monde complet avec son horizon du mal, avoir froid, avoir faim, le pouvoir d'achat, avec son horizon du rêve, partir en vacances, etc. Que le monde soit dit comme avant, etc. Le village français avec donc le rêve français, ça c'est le monde des commentaires électoraux et des rêves qui sont supposés à l'intérieur, et l'autre monde, en même temps, la tragédie, une guerre insensée, une guerre effroyable. une guerre ou l'horizon. Alors c'est une autre sphère de commentaires. Et comme toujours, quand c'est tragique, c'est trop tard. On l'avait venu, ça fait 20 ans qu'on va venir, mais on l'avait pas vu venir. Et c'est un désastre de civilisation. C'est une guerre terrible pour les civils. Et les deux sphères ne communiquent pas.
Et vous, gueule de bois, Michael Fossen ?
Oh, gueule de bois, mais qui n'a pas toujours été précédée par une ivresse. Donc, d'une certaine manière, c'est une gueule de bois redoublée. En effet, le constat est assez sombre. On peut peut-être rappeler quand même que cette chanson de Ray Ventura, elle a été écrite en 1938, c'est-à-dire à un moment où le Front Populaire était déjà en train de s'affaiblir et était sur le point même d'ailleurs de disparaître. Comme si, je ne sais pas s'il y avait une dimension clairement politique dans l'écriture de cette chanson, mais en tout cas la réception a certainement été dictée par cela. C'était un petit peu le rendez-vous manqué avec l'histoire. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? C'est-à-dire aussi, tout est là, tout devrait être là. Là, je parle plutôt de la situation en France, pour que les choses puisse peut-être prendre une autre tournure politique, et néanmoins, ça ne marche pas. Comme si une inertie constante nous condamnait, en quelque sorte, à l'impossibilité de la réalisation, non pas simplement de nos rêves, mais de nos bonheurs ou de nos plaisirs les plus élémentaires. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Il y a quelque chose comme une impatience qui, évidemment, entre en contraste avec ce que Véronique Naumkrap a rappelé, le tragique du moment, les deux sphères ou les deux bulles séparées, dont l'une est clairement du côté de l'horreur. Mais néanmoins, cette impatience, il faut toujours la rappeler, même dans les moments du pire, c'est-à-dire une sorte d'évidence à pouvoir faire de ce monde autre chose que ce qu'il est, qui est aussi une des forces à laquelle il ne faut pas renoncer, même dans les moments les plus difficiles.
Vivons-nous une répétition du passé ? Je me souviens qu'il y a quelques années, vous aviez signé un livre, Michael Fossel, qui ressuscitait les fantômes des années 30, et vous aviez insisté, à juste titre, je crois, sur ce péril qui était toujours menaçant et bien actif. Aujourd'hui, le lendemain du premier tour des élections françaises, ce passé nous habite-t-il encore ?
Ben, j'aurais aimé pouvoir vous répondre par la négative et vous dire que j'avais mal vu ou mal compris. Alors voilà, j'ai effectivement réfléchi un peu il y a quelques années à ce qui me semblait être quelque chose comme une récidive d'une situation, évidemment pas une répétition à l'identique, mais une sorte de logique, une logique politique qui nous plaçait en quelque sorte dans l'hypothèse selon laquelle les mouvements les plus réactionnaires, les plus xénophobes, les plus racistes même, constituaient potentiellement une alternative politique, une issue politique. Et cela, la France l'a déjà vécu, enfin j'ai essayé de le montrer, justement à la fin du Front Populaire, mais avant 1940, c'est-à-dire cette espèce de processus d'affaiblissement, pour ne pas dire plus, de la démocratie, cette espèce de radicalisation, de brutalisation du discours politique qui finit par banaliser, et Dieu sait que là nous avons eu affaire à une banalisation à laquelle sans doute même les esprits les plus chagrins ne s'attendaient pas, une banalisation du pire, une habitude aussi qui est prise avec ce qui jusqu'à présent nous aurait semblé improbable et surtout intolérable. Donc évidemment il ne s'agit pas d'être dans un pessimisme radical, mais de prendre la mesure de nos habitudes, de prendre la mesure aussi de ce que nous avons tendance à considérer comme normal ou comme au fond d'une importance secondaire, y compris dans les affaires étrangères ou la guerre d'Ukraine.
Pessimisme radical ou lucidité désespérée ou combativité, Véronique Naumkrap ?
Moi, je crois que tout est faible et toutes ces postures sont faibles. Alors peut-être s'agit-il de ne pas se dire comment je vais, moi, suis-je pessimiste, suis-je, etc., dans quelle étagère, mais plutôt de voir ce qui se passe, c'est-à-dire par exemple la résistance ukrainienne que personne n'avait prévue, c'est inouï. Mais d'ailleurs, ça a changé les mots. Par exemple, pour moi, le mot « héros », qui avait un peu perdu de sa superbe, je dois dire, est devenu comme ça le seul mot. Oui, c'est héroïque. Oui, comme dans Corneille. Oui, cette résistance est héroïque. Et ben, ça me redonne pas, parce que si elle se fait écraser au petit matin comme la chèvre de Monsieur Seguin, je sais pas comment on va s'en remettre. Mais pour le moment, chaque jour déplace tout. Chaque jour de cette résistance fait que la situation est en suspens, que en face, le sinistre personnage qui a le doigt sur le bouton n'appuie pas, puisqu'il est en guerre à l'intérieur de l'Ukraine, que nous, de l'autre côté, nous ne sommes pas en guerre. Et chaque jour, et si l'une ou l'autre situation était tout à coup la défaite, que se passe-t-il ? Tout à coup, la victoire atroce de l'envahisseur, ce ne serait pas possible. Et grâce à la résistance, nous tous, nous sommes en suspens, dans une situation déplacée, où rien n'est résolu, mais rien n'est fermé. merci, la résistance ukrainienne, elle fait du bien au monde entier et elle nous sauve du mensonge venu de la désinformation de l'agresseur.
Peut-on dire, selon vous, Michael Fossel, que la guerre en Ukraine a empêché, comme le disent certains commentateurs politiques, l'absence de débat en France qui aurait permis de nourrir des thèses adverses et d'engager peut-être un débat plus profond quant au fond du fonctionnement même de la démocratie? Est-ce que ce débat a été éludé? Est-ce que ce résultat du premier tour est le résultat de cette absence-là?
Oui, alors il ne s'agit pas de faire de la guerre en Ukraine la responsable de cette absence de débat, dans la mesure où c'est un événement d'une gravité telle qu'on ne pouvait pas ne pas en faire, je dirais, en parler comme on l'a fait, autant de temps qu'on l'a fait. Simplement, je pense que les racines de cette situation sont plus anciennes, en particulier, puisque vous le suggériez, dans le fait que le débat institutionnel, le débat sur ce qui nous constitue, sur la Constitution, donc en ce sens, n'est plus tellement tenu en France aujourd'hui. Il l'a été d'une certaine manière pendant Nuit Debout, il l'a été aussi pendant les Gilets jaunes. Bon, mais cette idée qui, à mon avis, n'est pas une idée d'intellectuel, qui n'est pas, enfin, une préoccupation d'intellectuel, qui est une préoccupation qui est tout à fait politique. Qu'est-ce qui nous constitue? Qu'est-ce qui nous fait vivre ensemble, d'une certaine manière, et organiser notre vie politique? Cette idée s'est un petit peu perdue. Alors, on avait parlé à un moment de Sixième République, on avait essayé de tenter cette valorisation de quelque
Mélenchon
chose.
Mélenchon l'avait proposé.
Mais il n'a jamais été vraiment repris sur ce point par d'autres hommes politiques, je veux dire. Or, nous arrivons quand même là, parce que si on peut faire, c'est très difficile, des parallèles avec la situation ukrainienne, ou plutôt russe en l'occurrence, nous arrivons, je pense, à un certain degré d'irrationalité du présidentialisme, de la personnalisation du pouvoir, où on a vraiment, je pense, on aurait eu intérêt, parce que ça ne sera pas pour cette fois-ci, vraisemblablement, à remettre en question, pas simplement le contenu des politiques que l'on veut mener, mais aussi la manière dont on entend organiser le pouvoir. Qu'est-ce que c'est que d'avoir le pouvoir aujourd'hui? Comment essayer de le partager? Pourquoi faut-il peut-être aussi qu'il revienne à ceux qui en sont en principe les détenteurs? Toutes ces questions-là, évidemment, à la faveur non seulement d'une guerre, mais d'une crise sociale, comme il y en a eu aujourd'hui en France, comme il y en a une en France, même si personne ne la voit visiblement, ces questions-là auraient peut-être aussi permis d'élever un petit peu le degré de conscience des individus. Nous sommes là maintenant, nous réfléchissons avec des noms propres, et souvent les noms propres, nous les envoyons à la figure mutuellement comme des scories, comme des insultes, sans pour autant procéder à des arguments ou à des réflexions un peu plus élaborées, ce qu'un régime un peu moins personnalisé permettrait peut-être de faire.
Je vous propose d'écouter la voix de Michel Foucault, qui va parler de l'apparition de la biopolitique. C'est une archive INA du 17 mars 1976, c'était l'extrait d'un de ses cours.
Je crois que l'on voit apparaître quelque chose de nouveau, qui est une autre technologie de pouvoir, non disciplinaire celle-là. Une technologie de pouvoir qui n'exclut pas la première, qui n'exclut pas la technique disciplinaire, mais qui l'emboîte, qui l'intègre, qui la modifie partiellement, et qui surtout va l'utiliser, s'implantant en quelque sorte en elle, et s'incrustant effectivement grâce à cette technique disciplinaire préalable. Elle ne supprime pas cette nouvelle technique, elle ne supprime pas la technique disciplinaire, tout simplement parce qu'elle est d'un autre niveau, elle est à une autre échelle, elle a une autre surface portante et elle sert de tout autre instrument. Ce à quoi s'applique cette nouvelle technique de pouvoir non disciplinaire, c'est, à la différence de la discipline qui, elle, s'adresse au corps, c'est une discipline qui s'adresse à la vie des hommes. Ou encore, si vous voulez, non pas à l'homme-corps, mais à l'homme vivant, à l'homme-être vivant, à la limite, si vous voulez, à l'homme-espèce. Plus précisément, je dirais ceci, c'est que la discipline essaie de régir la multiplicité des hommes en tant que cette multiplicité peut et doit se résoudre en corps individuel, à surveiller, à dresser, à utiliser, éventuellement à punir. Et puis, la nouvelle technologie qui se met en place s'adresse à la multiplicité des hommes, mais non pas en tant qu'ils se résument dans des corps, mais la multiplicité des hommes, en tant qu'elle forme au contraire une masse globale, affectée de processus d'ensemble qui sont propres à la vie, et qui sont des processus comme la naissance, la mort, la reproduction, la maladie, etc. Donc, après une première prise de pouvoir sur le corps, qui s'est fait sur le mode de l'individualisation. On a une seconde prise de pouvoir qui, elle, n'est pas individualisante, mais qui est massifiante, si vous voulez, qui se fait en direction non pas de l'homme-corps, mais de l'homme-espèce. Après l'anatomopolitique du corps humain mise en place au cours du XVIIIe siècle, on voit apparaître à la fin de ce même siècle quelque chose qui n'est plus une anatomopolitique du corps humain, mais ce que j'appellerais une biopolitique de l'espèce humaine.
Nous venons d'entendre les propos de Michel Foucault, c'était en 1976, avec ce concept qu'il a inventé de biopolitique. Est-ce que ce concept vous paraît pertinent aujourd'hui pour comprendre ce que nous vivons, Véronique Naumgrapp?
Dans les années 80-90, quand il y avait la tragédie du virus du sida, quand il y avait toute cette société qui découvrait d'autres formes d'ennemis, après il y a eu l'autre virus, mais là je trouvais ça très utile. Mais maintenant là où j'en suis, je trouve que pour moi c'est pas un outil. Pourquoi ? Parce que ce qui est en train de se passer, je trouve que par exemple, revenons à la question des commentaires électoraux, sans les juger. C'est-à-dire, pour moi, point de vue de l'ethnologue, tout le monde fait ce qu'il peut, tout le monde est intelligent, tout le monde en fonction de ce qu'on connaît, tout le monde rame comme on peut, journaliste compris, donc je ferai pas des grands. Par contre, il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à surmonter. Exemple, ce que j'appellerais la compétition entre les catastrophes. Vous rencontrez une jeunesse qui est complètement hantée par le désordre climatique, le réchauffement. Dans 3 ans, on en a pour 3 ans. Et si moi, comme une crétine, je viens de reparler de la catastrophe qui tombe sur l'Ukraine, c'est comme si je trahissais la cause du temps. Et eux, s'ils m'écoutent un peu et que je leur dis, écoutez, en plus, quel dégât écologique, une guerre, entre parenthèses, ça réchauffe. Quand ça brûle tout, ça réchauffe de quelques centimètres, de quelques centigrades, donc bref. Et donc, si vous voulez, si moi je leur parle de ça, eux, ils vont avoir l'impression de trahir leur cause. Alors pourquoi ? Mais même, je poserais bien la question au Michael, c'est une structure de la pensée, a priori, que Kant a oublié dans sa critique de la faculté de juger, c'est pourquoi on a cette espèce de trou noir de chaque catastrophe. Ou si on parle de celle d'à côté, on est un traître. Et alors, pareil pour la question des femmes, depuis des années, la violence contre les femmes. Pareil pour... Alors, comment on va faire ? Il ne s'agit pas...
Vous
de
voulez dire
le supermarché
des catastrophes. Temporalités ?
Oui, oui, et que quitter, aller de l'une à l'autre, c'est trahir l'une ou l'autre. Et d'ailleurs, quand vous défendez un peu trop furieusement une cause, quelqu'un vous dit, et qu'est-ce que tu as oublié le tigré, tu as oublié les Ouïghours, et tu as oublié, etc. Et là, la somme de catastrophes en termes d'espace-temps historique est telle qu'on ne peut pas, sauf, je sais pas, comme si, alors là, ça devient obscène, une espèce d'étalage des catastrophes dont on mesure l'une à droite, l'autre à gauche, et c'est pas possible non plus. Où est l'honneur ? Moi, je pense qu'il faut être fidèle à la catastrophe qui vous ravage, mais en lien, sans antagonisme.
Mais ça nous empêche pas d'aller voter, mais on va voter catastrophé, dans un état et un climat de catastrophe.
Non, c'est qu'on va voter en fonction de la catastrophe dans laquelle on est complètement immergé, par exemple, je pense à la jeunesse, la catastrophe climatique qui entraîne toute une série de choix de vie, on va voter en fonction de celle-là, ou des réfugiés, par exemple, en France, les réfugiés traités par l'Europe.
On ne peut pas dire que l'écologie a été tellement traitée par les deux candidats qui vont s'affronter dans 15 jours, et on ne peut pas dire que le score des écologistes soit le reflet d'une jeunesse engagée.
Tout le monde en parle et la jeunesse est quand même engagée. Mais ce que je veux dire, c'est que si je suis une jeunesse engagée sur les réfugiés, la façon dont ils sont traités, ceux qui viennent d'Afrique, etc., et que je vois les réfugiés ukrainiens et que je commence à dire « mais vous oubliez les autres réfugiés », ce qui est vrai, c'est là que ça va plus. C'est-à-dire que du coup, toute une jeunesse va dire « je vote blanc parce que l'Europe est pire que le pire fasciste, que le pire des fascistes, etc. » Alors que je pense qu'il faut penser différemment. C'est-à-dire, le problème ne vient pas tant des commentaires ou des lunettes des uns et des autres, mais de ce fonctionnement, de cette aporie systémique qui fait que quand je me bats pour les réfugiés en Europe, bien que les réfugiés ukrainiens, je veux leur tendre les bras en courant, etc., tellement ce qui leur arrive est inouï, est absolument effrayant et non prévu, mais néanmoins, combien de groupes disent « ah ben non, quand même, alors si tu fais ça pour eux, fais ça pour les Érythréens, et mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut sauver ?» Donc vous voyez, ça c'est un problème vraiment pour la gauche. Je pense que les gens qui ne travaillent pas sur les droits de l'homme, c'est un problème pour les droits de l'homme, mais qu'il faudrait traiter épistémologiquement Et en même temps, avec les neurones du bide, si j'ose dire, c'est-à-dire pas à nous faire de l'épistémologie sophistiquée, glacée, mais quand même nous aider, c'est-à-dire ne peut-on pas lutter pour des causes différentes sans penser qu'on se trahit les uns les autres parce que ta cause n'est pas la mienne ?
Mais quelle faucelle ! Quand on a été déposer un bulletin dans l'urne hier, on a pensé à quoi ? Vous avez pensé à quoi ? Et à qui ? Et à quelle cause ?
Pour ma part,
intéressant comme problématique.
Effectivement, bon, parce que la question, c'est de savoir. On a parlé parfois de concurrence victimaire. Il y a aussi une concurrence des catastrophes. C'est-à-dire qu'au fond, on ne sait pas très bien devant les espèces de sidérations multiples qui s'emparent de nous, ce qui doit être en quelque sorte abordé, si possible réglé en priorité. On a longtemps disposé de plusieurs régimes d'explication du monde qui permettaient d'y voir plus clair, mais aussi produisant des formes d'aveuglement. Par exemple, le marxisme expliquait que tout était social. Et d'une certaine manière, les contradictions économiques permettaient de rendre compte de l'ensemble des phénomènes. Il y a eu d'autres systèmes d'explication du monde qui se sont tous affaiblis, ce qui fait que la politique, les engagements politiques se sont effectivement en quelque sorte sérialisés. Chacun est dans son couloir selon sa tempérance ou son tempérament propre. Et effectivement, ça pose un problème, c'est que dans tous les cas de figure, notre capacité d'empathie et de scandale est limitée. Et par conséquent, il y a aussi, je pense, un effet d'investissement dans telle ou telle cause, la cause climatique, la cause des réfugiés ukrainiens en ce moment, la cause antiraciste, la cause sociale, qui font qu'on peut-être on est un peu en demande aussi d'une sorte d'explication un peu plus globale. Alors la difficulté, je dirais, c'est qu'il faut peut-être considérer que Véronique Lahoud-Grappe l'a d'ailleurs cité à un moment, une certaine conception des droits de l'homme un peu plus inclusive, c'est-à-dire qui incluait aussi l'aspect social de la du combat, a pu faire, qu'en tout cas une certaine gauche s'est reconnue dans cette manière d'envisager les choses. Mais moi je prendrais, si on prend simplement la chose au niveau politique, une des distinctions qui me paraît les plus négatives pour la gauche, c'est la distinction entre le social, et enfin la gauche et d'ailleurs le camp progressiste, ceux qui défendent un peu l'égalité, la distinction entre le social et le sociétal, comme s'il y avait d'un côté l'économique, les inégalités, et puis de l'autre tout ce qui relevait ou des droits de l'homme, ou des mœurs, ou de la manière dont les individus organisent leur vie. Je crois qu'il y a quand même, malgré tout, dans l'engagement politique, quel que soit le camp que l'on choisit, mais surtout si on choisit celui de la gauche, il y a quand même l'idée d'avoir une conception unitaire, enfin une conception un petit peu articulée de tous nos scandales, ne pas accepter les inégalités sociales comme on n'accepte pas non plus les injustices juridiques liées, par exemple, aux droits de l'homme.
On ne l'a pas tellement entendu au cours des derniers jours, durant cette campagne, Véronique, ce discours-là.
Ben non, mais disons que pour que les choses puissent se lier d'une façon qui ne soit pas artificielle, peut-être faudrait-il penser que, d'ailleurs c'est ce que font finalement entre midi et minuit, entre la nuit et le jour, c'est ce que fait la conscience humaine, ou dans le présent infini, comme ça, l'assiette du présent, le malheur humain comme un énorme gâteau de cauchemar, chacun en a sa part et tous l'ont tout entier, et on peut en réalité, tout le monde passe dans la journée, dans sa tête, à lier tous ces malheurs en réalité. Ils sont pas du tout. C'est au niveau du militantisme que ça commence à devenir, et je dirais du militantisme qui a la foi, qui est honnête. Mais pour revenir au débat des élections, ce qui est terrifiant, par contre, alors je ne juge pas, mais c'est le fait que des gens qui au fond veulent tous la même chose, c'est-à-dire justement ce rêve de que ça aille mieux. On va pas demander la lune. Moi, je demande pas la lune. Que les gens ne souffrent pas physiquement, qu'ils puissent rêver, que personne ne les emmerde dans leur vie. Et quand il y a des régimes totalitaires de mafia et de répression, vous ne pouvez pas vivre tranquille. Bon, voilà. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il disait Zelensky? On veut vivre comme vous, près de vous, au premier discours, près de. Et donc, voilà. On en est là et vous avez ici plein de gens qui votent, qui sont vraiment plus militants qu'eux, c'est pas possible, avec une foi, une intensité, une honnêteté, une intelligence, etc. Sauf qu'ils pensent que, parce qu'ils sont dans leur bulle politique intérieure de la France, et donc ces schémas-là, que la France est atroce et qu'ils peuvent pas voter pour un pouvoir qui quand même n'est pas le pouvoir de quelqu'un qui est à l'extrême droite et qui a des liens avec les pires de la planète. Et donc, voilà. Et donc, on en est là avec cette semence d'unité qu'on avait, cette unité qu'on avait il y a encore une trentaine d'années, une vingtaine d'années. Et on l'a perdue, mettons, dans la famille des gauches et des républiques, hein. Elle est large. Quand c'est grave, il faut ouvrir les bras larges. Et quand ça va mieux, on se redispute. Et donc, la résistance, c'est j'ouvre mes bras à des gens avec lesquels je me marierai jamais. Et pourquoi ils ont, pourquoi ils ne veulent pas?
Macron a promis ce mariage dont vous parlez, Véronique Nahum-Grave.
Les grands bras ouverts, mais après on se disputera comme des fous. Mais quand c'est grave, il faut y aller, parce qu'on est contre quelque chose de gravissime. On acceptait de relier beaucoup plus droits de l'homme, atteinte aux droits de l'homme, politique étrangère, catastrophe historique et vie intérieure des Français dans le débat politique. On ouvrirait vraiment une fenêtre pour faire rentrer un peu d'air dans une salle où on a trop respiré, où il y a trop de CO2. C'est-à-dire, il faut comprendre que mieux vaut, comme dit Zelensky, pour le moment, on ne demande pas la Lune, on ne dit pas que c'est parfait, mais mieux vaut dire non à ce qui menace tellement, à ce qui menace tellement la vie des gens, c'est-à-dire l'extrême droite, c'est-à-dire des régimes comme ceux de Poutine, c'est des régimes qui prendront dans leurs bras avec toute une série de rhétoriques effrayantes, mais ce serait un autre sujet sur le mensonge politique, mais c'est-à-dire des gens qui ont quand même parti lié avec le parti de l'agresseur de cette guerre infâme.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Michael Fossel, Bella Ciao, mais il faut que vous expliquiez dans quelle version Bella Ciao. Michael Fossel.
Ah, je ne sais pas celle que vous avez choisie, mais ce que je sais, c'est que les soutiens d'un des deux candidats qui s'est qualifié hier et qui est l'actuel président de la République avait considéré que cette chanson avait pour origine la bande-annonce d'une série intitulée Casa des Papels. Donc, si c'est l'occasion de rappeler que c'est une des chansons révolutionnaires patrimoniales de l'Europe du XXe siècle, c'est bien. Voilà, c'est une manière de dire quand même qu'il y a une histoire. Que nous n'avons pas, en quelque sorte, nous ne sommes pas des jeunes adolescents devant des séries qui mettent en scène la politique depuis simplement quelques années, que nous sommes aussi les héritiers d'une histoire qui nous dépasse, qui renvoie effectivement à des périodes de catastrophes, mais aussi à des périodes de victoires. Et Bella Ciao, c'est une manière aussi de rendre hommage à ceux qui se sont battus dans les moments durs et qui l'ont fait aussi parfois et même souvent dans une certaine allégresse.
Alors, on va écouter la version de Bella Ciao.
Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina, appena alzata. Risaia mi tocca andare e fra gli insetti e le zanzare. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao e fra gli insetti. Mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani.
Io ti invoco ogni domani, partigiano portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano portami via, che mi sento di morire, e se muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire.
suis montagnard. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se bellire la sui montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, mi diranno che bel fior.
Ce premier tour des élections est-il, selon vous, tous les deux, une sorte de bis repetita en plus amer? En plus amer parce que l'extrême droite gagne du terrain, Michael Fossel.
Oui, il y a quelque chose d'un peu aveuglant, c'est l'idée qu'au fond, nous vivons de pour une sorte de répétition de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Or, ce n'est pas du tout le cas.
Pourquoi? Parce qu'il y a une explosion du champ politique.
Parce qu'il y a une simplification, en un sens, du champ politique, par la désagrégation des partis qui étaient déjà très affectés il y a 5 ans, et puis surtout parce qu'il s'est passé ces 5 ans. 5 ans qui ont été marqués par toute une série, alors je ne sais plus s'il faut dire de crises ou de catastrophes, mais par des événements de nature au fond tellurique, là on peut dire, hein, à partir du moment où cela engage la terre entière, à commencer par le Covid, mais évidemment qui se sont réfractés dans chaque pays. Et donc moi je ne sais pas la nommer mieux que cela, et certainement pas mieux que ceux qui professionnellement étudient la chose, mais certainement une désaffection à l'égard du politique qui est d'autant plus grande qu'elle est en fait l'effet d'une déception. Au fond, pour le dire vite, j'ai pas tellement compris la nullité de cette campagne, compte tenu du fait que le premier tour, peut-être que ça s'arrangera au deuxième, ça n'est pas sûr. Compte tenu du fait que néanmoins, bon, qu'est-ce que c'est, comment faire campagne politiquement? Il faut essayer de trouver une expérience commune, s'adresser aux gens qui, en dépit de leurs différences de sociales en particulier ou de génération, ont les mêmes sujets de préoccupation ou les mêmes considérations relativement à ce qui est catastrophique. Or là, il existait une expérience relativement commune, malgré tout, qui était liée à la maladie et aux mesures sociales qui ont été prises pour faire face à elle. Évidemment, le confinement n'a pas été vécu de la même manière dans le 16e arrondissement et en Seine-Saint-Denis, on l'a beaucoup dit, mais néanmoins, il y a eu là un moment de suspens, une manière au fond où chacun d'entre nous s'est quand même retrouvé face ou à lui-même ou avec ses proches.
Et mais il n'y a pas eu d'expérience politique
absolument
de
pas.
Cette communion de sort, si j'ose dire.
Cette communion n'a pas été prise à charge par le discours politique. On n'a pas tellement réfléchi là-dessus.
Ça a été pris en charge sanitairement,
financièrement, ça a été pris en charge
financièrement, d'un point de vue biopolitique. Le quoi qu'il en coûte. Voilà, biopolitiquement, mais parler. Pas de cette union de tous.
Non, parce
face
que comme, voilà, au cette
virus.
Union de tous, elle a été un peu portée rhétoriquement, mais j'ai l'impression que du point de vue, ça explique à mon avis beaucoup du résultat d'hier, même si peu de gens le disent, mais enfin
c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous revenez aussi sur ce que Véronique a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance des émotions dans l'acte
des expériences
démocratiques du vote.
Voilà, c'est-à-dire qu'au fond, on n'arrive pas à l'isoloir seulement avec des considérations idéologiques ou des attentes normatives, on y va aussi avec un corps. Et un corps qui a été, qu'on le veuille ou non, marqué, je veux dire qu'on ait ou non eu la maladie, mais marqué par des discours, par des mesures qui sont sans précédent dans l'histoire, quelle que soit l'appréciation qu'on porte. Et au fond, il y avait deux possibilités, je crains que ce soit la deuxième qui l'ait emporté. La première aurait été de faire de cette expérience politique et en même temps subjective singulière l'objet d'un discours de transformation, et l'autre d'en faire une accélération dans l'individualisation, dans la numérisation de nos expériences, dans une forme au fond de sentiment que nous sommes des atomes séparés les uns des autres et que nous ne nous retrouvons plus qu'à la faveur des catastrophes. C'est que nous ne disons plus « nous » désormais.
Ah bah écoutez, Macron hier soir, il a dit nous, je crois qu'il l'a dit 8 fois.
Oui,
nous.
Mais c'est un nous qui
mais
est
moi,
un peu...
Trouve...
Ah, Véronique n'est pas d'accord.
Mais non, mais disons, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je le dirais peut-être différemment. D'une part, il y a 5 ans, il y avait les mêmes intervenants, c'est comme si c'était il y a 400 000 ans. Je veux dire, effectivement, il y a eu des bascules, et ces bascules qui sont collectives et qui sont liées d'ailleurs à des événements violents, quelle que soit la définition de cette violence, elles sont doubles, là, oui, le moment du confinement planétaire, et moi je trouve le moment de cette agression en Ukraine, ça fait 2 moments extrêmes, mais il y aurait peut-être d'autres moments, mais enfin disons, pour les consciences françaises.
Il y a eu les
gilets
jaunes aussi. Eh ben, c'est qui pas, ont enfin, marqué considérablement la dernière mandature.
Mais disons que là, je crois que les gens en face de leur, quand ils ouvrent la fenêtre, quand ils ouvrent leur télé, ils se posent la question du monde. C'est pas le nous, mais ils se posent la question du monde. Dans quel monde je suis? Et quand il y a eu le confinement, la question du monde, elle était mise en suspens. Le monde s'était tout à coup soulevé d'un millimètre et légèrement déplacé, et sidéré, silencieux. Les villes vides, mais tout le monde chez soi, et pleine chez soi. L'espace privé, dans lequel tout le monde remplit, et plus d'avions, plus d'etc. Et c'était tout à coup cette idée que le monde pouvait être sans l'homme. Il y avait quelque chose d'assez extraordinaire. Et là, avec la guerre qu'on a, l'exact inverse. Des villes ravagées, les gens jetés dehors, et nous, regardant l'écran de télé, plongeant dans la réalité des guerres, d'une certaine façon, avec leur vacarme. Le confinement, il y avait un silence qui était comme un abîme. Et là, il y a un vacarme de ces missiles qui tombent, de ces bombardements, ça nous fait du bruit dans la tête. Et on peut pas se boucher les oreilles comme on peut faire les yeux.
Et de l'humanité tout entière, de l'appartenance à l'espèce humaine qui est mise en cause.
Et donc, de ces deux choses font les gens, moi je pense, parce que ce qu'il y a de bien avec les sciences sociales, c'est qu'on sort de cette idée, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qui se dit, est-ce que c'est nul, est-ce que c'est, etc. Mais les gens, moi je pense qu'il n'y a pas d'idiot nulle part. Ils se posent la question du monde. Sauf que cette question du monde, elle a été certes sérieusement ébranlée pendant ces 5 ans dans 2 sens différents. Le sens du silence sidéral, et le sens de l'histoire la plus violente qui ramène ce qu'il y a eu de pire au XXe siècle en termes de Hitler et Staline mariés ensemble avec cette nouvelle version enfantée par le XXIe siècle. Et donc on a tout à coup l'histoire avec sa violence en face de nous, et il faut quand même mettre les masques. Et ben moi je comprends que les gens soient un peu désorientés, peut-être pas d'ailleurs, mais disons la question du monde a gagné 3 points d'interrogation, disons, par rapport à, je sais pas, l'après-guerre, voilà. Elle a gagné quelques points de suspension, voilà.
Mais pour répondre à la question du monde, il reste la possibilité d'aller voter.
Il reste la possibilité d'aller voter, d'ailleurs,
en tant que citoyen.
Mais vous parliez du nous tout à l'heure, qui va être certainement brandi ici ou là. On a parlé aussi, ou Véronique a parlé.
Et de Front Républicain.
Du Front Républicain, qu'il sera bien temps, je dirais, de reconstituer dans l'urgence, parce qu'il a quand même subi, c'est le moins qu'on puisse dire, des coups de canif ces dernières années. Alors, on espère que ça tiendra. Qu'est-ce que vous voulez? Véronique Naoumgra parlait du bruit, du silence. Bon, il y a bien un candidat qui en a parlé, d'ailleurs, du bruit, du silence et de la nuit récemment. Il faut quand même reconnaître cette chose-là, c'était Jean-Luc Mélenchon, et dans un beau passage, qui justement faisait cet effort d'essayer de... À un moment, il avait dit « Tout est politique, le bruit, la nuit ». Voilà. Tout est politique, c'est une formule que l'on peut discuter, mais tout est politisable, sauf peut-être d'ailleurs cette espèce de discours à la fois managérial et un petit peu comment dirais-je, économique, ou alors carrément même, pour ce qui est de l'extrême droite, xénophobe. Tout est politique, c'est-à-dire nos expériences, nos manières de nous rapporter au monde. Je parlais tout à l'heure du confinement. Heureusement, il y en a des plus heureuses. Hein. Peut-être si on avait voté au mois de mai, comme d'habitude, sous le soleil et dans une forme de printemps un peu plus heureux, les résultats auraient été légèrement différents. Ces choses-là aussi jouent, même si elles apparaissent comme un peu secondaires. Une forme de... Moi, c'est pas du tout que la question du monde, je suis d'accord avec Véronique Naoumgra, ne se pose plus. C'est que peut-être elle se pose pour nous-mêmes, pour les individus, pour les citoyens, je veux dire, sans avoir beaucoup de relais dans les discours politiques où on parle de plus en plus, ou de systèmes économiques ou de catastrophes qui nous guettent, mais de moins en moins d'expériences communes.
Je voudrais vous faire écouter la voix d'un philosophe qui a beaucoup évoqué le politique, qui s'appelait Cornelius Castoriadis. Nous allons l'entendre, il va parler de l'insignifiance du politique. C'était le 25 novembre 1996 au micro de Daniel Mermet.
Ce qui caractérise le monde contemporain, c'est bien sûr les crises, les contradictions, les oppositions, les fractures, etc. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est précisément l'insignifiance, c'est-à-dire la querelle entre la droite et la gauche, par exemple, actuellement. elle a perdu son sens. Non pas parce qu'il n'y a pas de quoi y avoir une querelle politique, même une très grande querelle politique, mais parce que les uns et les autres disent la même chose. Depuis 83, les socialistes ont fait une politique, puis Balladur est venu, il a fait la même politique, puis les socialistes sont revenus, ils ont fait avec Bérégovoy la même politique, Balladur est revenu, il a fait la même politique, Chirac a gagné les élections en disant « je vais faire autre chose » et il fait la même politique. Bon, manque de sens de cette distinction. La seule chose qu'il peut faire, c'est suivre le courant, c'est-à-dire appliquer la politique ultra-libérale qui est la mode à cette époque. Et même les socialistes, bon, ils n'ont pas fait autre chose. Et je ne crois pas qu'ils feraient autre chose si j'étais au pouvoir. Ce n'est pas des politiques, à mon avis, c'est des politiciens, au sens de micro-politiciens, n'est-ce pas ? Bon, c'est des gens qui chassent les suffrages par n'importe quel moyen, c'est tout. Ils n'ont aucun programme, quoi. Ils n'ont pas vraiment de programme. Leur but... c'est de rester au pouvoir ou de revenir au pouvoir, et pour ça ils sont capables de tout. Clinton par exemple, il a fait sa campagne électorale en suivant les sondages comme ça. Si je dis si, qu'est-ce qui va se passer, en prenant chaque fois l'option gagnante pour l'opinion publique.
Alors les propos de Cornelius Castoriadis sont intéressants aujourd'hui, ils ont été prononcés en 96. Il parlait de la querelle entre la droite et la gauche, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Pour autant, la chasse aux électeurs est-elle identique à celle de ces années-là ? Votre avis, Michael Fossel ?
Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche.
Enfin, je parle au niveau des résultats.
Au niveau des résultats,
électoraux.
Oui. C'est une différence, une distinction.
Il y a une nouvelle gauche.
Il y a une nouvelle gauche.
Et une nouvelle extrême droite.
Voilà, mais alors vous voyez, dans les moments de crise, justement, nous y sommes maintenant, on finit toujours par dire, on ne se contente plus de dire les extrêmes, comme ça, de manière indistincte. Là, c'est l'extrême droite qui revient. Et donc, le paradigme, plutôt l'opposition, le clivage. Droite-gauche, pour moi, il a ceci de vrai qu'il ressurgit toujours dans les moments de vérité. Évidemment, dans les moments
il n'a pas disparu. Ce n'est pas parce que les partis eux-mêmes recueillent très peu de voix que ces manières de penser le monde constituent un socle.
Il
aujourd'hui
se constitue un socle qui a été lié, on va pas faire d'ici de l'histoire de ce paradigme, mais à la Révolution française, donc à une certaine modernité démocratique, et qui ne s'effacera qu'avec elle. Et comme il n'est pas souhaitable à mon sens, que cet horizon démocratique moderne s'efface, il faut réinvestir. Il ne s'agit pas de retourner aux vieilles définitions, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de politique sans clivage. Et que si le clivage gauche-droite est abandonné, il faut lui substituer d'autres clivages. Et on voit très bien ce qui se passe maintenant de manière rituelle au deuxième tour, c'est qu'on nous oppose cette fois-ci le clivage entre eux, alors les nationaux autoproclamés et les mondialistes. Bon, et ce clivage-là est non seulement insatisfaisant politiquement, mais en plus il est un peu perturbant, je dirais, ou préoccupant, parce qu'il finit quand même par faire que les nationaux prétendent être en plus du côté du peuple, les mondialistes étant du côté des élites. Alors, la droite et la gauche, ça a ses limites, évidemment. Cela étant, ça permet aussi de rationaliser le dissensus, de rationaliser le conflit politique. On peut dire la droite, c'est plutôt du côté de l'autorité, de la tradition, voire de la liberté, si c'est la droite libérale. La gauche, plutôt de l'égalité, du progrès, de la transformation sociale et maintenant de l'écologie. On peut avoir des redéfinition, mais c'est une manière, je dirais, de, pour le coup, j'en parlais tout à l'heure, de politiser nos expériences, de politiser notre morale, nos affects aussi, de politiser nos priorités en termes de qu'est-ce qui est le pire catastrophe, la pire catastrophe du moment, de la politiser de manière relativement pacifique et surtout produisant une certaine forme d'issue. Ce que disait Castoriadis, qui a toujours gardé ce côté, même s'il avait rompu avec le marxisme un peu cet idéal révolutionnaire, c'était en 95, je crois, vous l'avez dit.
96, oui.
96. Donc cela fait maintenant un demi-siècle qu'au fond même, on constate que, donc à l'époque le Parti Socialiste était encore très puissant, mais qu'on constate que les politiques sont les mêmes. Et précisément, pour pouvoir dire que le Parti Socialiste...
Donc c'est un épuisement démocratique.
C'est un épuisement institutionnel, mais je crois que les gens n'ont jamais été forcément convaincus par lui, parce qu'après tout, pour dire que la gauche n'est plus de gauche, il faut bien que la gauche existe. Pour dire que, certains le pensent, la droite n'est plus de droite, il faut bien avoir quand même... Et moi je pense que les Français, au fond, comme la plupart d'ailleurs des Occidentaux, puisque c'est une différence qui est quand même fondamentalement liée à l'Europe... maintiennent, au fond, cette idée. Simplement, ils ne s'y retrouvent plus dans qu'est-ce que c'est que l'égalité ou qu'est-ce que c'est que la valorisation plutôt de l'individu.
Alors, il y a eu moins d'abstention que les fois précédentes, mais il y a quand même une abstention qui est devenue une cible privilégiée pour les deux candidats. La chasse au suffrage a déjà commencé. Comment imaginer cet entre-deux-tours et comment espérer un second tour ? Véronique Daumgrappe.
Disons que je vais faire un petit détour en suivant un peu ce qu'on a dit avant pour arriver à la question. Moi, je pense qu'il faut séparer l'histoire des partis français de l'histoire du mouvement social. L'histoire des partis, peut-être qu'il y a une évolution à l'américaine où il y aura un gros bloc progressiste et un gros bloc régressif et qui s'appelleront tous républicains. Le mot républicain a une fortune inouïe. Enfin, quoi qu'il en soit, est-ce qu'il y aura unification de gros blocs, des multiplications? Ça, c'est peut-être l'histoire des partis, mais disons que pour le moment, rien n'est joué, car moi, je pense que tout simplement, les deux gros partis de gouvernement jadis, qui étaient au centre chacun de leur latéralité, à gauche, centre-gauche, à droite, centre-droite, mettons très facilement, ils ont été siphonnés par Macron, et donc ils se sont effondrés, et ne reste que les autres, les chiottis qui partent avec leurs copains extrêmes, et puis il y a toujours eu, à gauche de la gauche, des mouvements radicaux, féministes, hein, qui sont là rassemblés par Mélenchon, dont je regrette par ailleurs les choix de politique extérieure, mais c'est un autre problème. Et donc, disons que si on pense histoire des partis, on peut se poser toutes ces questions et on comprend leurs enjeux électoraux, qui sont des enjeux vitaux pour subsister. Mais il y a aussi la base des maires, il y a les législatives, et vous allez voir revenir la base sociale des partis. Mais si on pense mouvement social, alors moi je dis... Altelin, c'est énorme. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs des votes de Mélenchon qui arrivent dans les îles, dans cette Saint-Denis, qui arrivent tout à coup, ils montent le rêve de gauche, appelons-le comme ça, on peut avoir des meilleurs, des mots plus... Voilà, il faudrait demander aux poètes quelque chose d'un peu plus poétique-politique. Donc je pense que le rêve d'un monde meilleur, disons ça comme ça, qui était... Il est énorme, il est immense, il est vertigineux. Et alors, voilà, et le nombre de... je pense qu'il y a une majorité de gens qui font pas forcément de la politique, mais qui en gros sont un peu tous d'accord sur répondre à la question de Benjamin Constant. Qu'est-ce que veut le peuple? Être à l'aise, aller dans les pays différents, être à l'aise, vivre un peu, voilà, justement, qu'on ne s'occupe pas de nos idéaux. Que on dit, oh ben on s'ennuie en démocratie, personne ne s'occupe de notre idéal, l'être ensemble, me laisser. Non, ne vous occupez pas de mon idéal, ne vous occupez pas de savoir si je veux être un nous ou un je, laissez-moi dans mon cercle de vide que j'essaye de remplir le peu, là, une vie étant assez courte, etc. Et donc moi je pense que hélas la politisation et la professionnalisation du politique, alors vous voyez c'est pas une position anarchiste, et c'est vrai que je pense que quelqu'un qui exerce le pouvoir absolu pendant 30 ans devient à moitié taré, ce qui est le cas du président russe, sinistre taré, je m'excuse, je le dis, mais moi je fais pas de politique, donc je suis libre de mes mots. Mais disons que la professionnalisation du politique, c'est un métier infernal, puisqu'il faut séduire avec ses tripes, séduire avec l'image de l'authenticité, laisser entendre en levant le menton qu'on est le porteur de l'espoir du peuple, etc. C'est un piège horrible. Alors, une fois qu'on dit la politique, s'il y a un piège, mais ils ont du courage de le faire. J'admire. Mais par contre, je pense que les gens, non, ils sont politisés, regardent la télé, ils ouvrent leurs fenêtres, et je me répète un peu de façon gâteuse, ils se posent la question, dans quel monde je suis, je voudrais qu'il soit vivable, ce monde.
Oui, nous allons être invités à faire barrage, nous le sommes déjà, donc dans l'imminence, c'est sans doute ce qu'il faut faire, il n'y a rien d'autre à faire. Je pense néanmoins que il va falloir aussi penser, si on veut utiliser ces métaphores, à des nouveaux ponts. Hein. C'est pas seulement des barrages qui vont en quelque sorte, comme ça, K1K, et avec des trous ici ou là, faire encore que cela passe, mais néanmoins réfléchir aussi à des manières, mais peut-être citoyennes, sans attendre les mots d'ordre des partis, sans considérer que tout viendra néanmoins ou nécessairement, pardon, de ceux qui sont déjà engagés dans des mouvements électoraux pour constituer des manières de sortir de cette espèce de cauchemar dans lequel nous sommes engagés depuis quelques décennies en France, qui consiste au fond à ne voir dans l'expression ou à favoriser comme expression de la colère celle qui sera fondée sur le repli identitaire ou nationaliste, et pour cela peut-être retrouver aussi, on avait commencé cette émission par là, le goût d'être heureux, le courage de l'être, en dépit de tout ce qui nous ramène à la gravité de l'heure. Donc la manière dont on va, ou dont les citoyens vont aussi essayer de reconstituer pour eux-mêmes et sans attendre les consignes des manières de sortir de cette espèce de nasse, sera au moins aussi importante que le résultat électoral de dans 15 jours.
Merci infiniment à vous deux. Et Véronique Naoum-Grab, vous avez écrit un texte qui est sur le site de la revue Esprit, que vous avez rédigé il y a 3-4 jours et qui s'intitule « Le lendemain de l'élection de Marine Le Pen ». Et je rappelle le livre de Michael Fossel, à lire et à relire en ce moment, qui s'intitule « Quartier rouge » et qui a été publié très récemment aux éditions des presses universitaires de France. Et c'est avec l'ONI comme la fin du monde que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Guillaume Roux qui est à la régie technique. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Clément, Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Et bien sûr Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal, vous avez rendez-vous, bien sûr, avec l'ami Mishka Assayas pour son nouveau Very Good Trip.